tous. Je propose de commencer cette rencontre, donc cette huitième rencontre au coin du livre, qui ce soir est consacrée à la Société d'histoire du protestantisme du Gard et de Nîmes. Et nous recevons Michel Boissard, qui est le président de la Société d'histoire. Donc la Société d'histoire du protestantisme du Gard et de Nîmes est une antenne, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, de la Société d'histoire du protestantisme français. Et Michel Boissard, je pense, détaillera les activités de la dite Société d'histoire dans notre région, mais peut-être aussi nous présentera quelque peu l'ensemble de cette Société d'histoire, tout au moins son origine, pour ensuite affiner et venir sur les activités peut-être particulières au travail de cette société ici dans la région. Voilà, donc sans plus attendre, je lui laisse la parole. Il va nous présenter tout ce travail, la naissance de cette société pendant à peu près 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et puis après quoi, comme d'habitude, vous aurez la liberté de poser des questions, de faire des remarques, d'ajouter au débat, et en espérant que ce soit le plus libre possible. Voilà.
Merci, bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité à venir vous parler de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Alors je voudrais d'abord peut-être situer un peu les choses historiquement. La Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard a un peu plus de 30 ans. Elle est née très exactement, elle a été déclarée au journal officiel de la République le 26 octobre 1977. Elle s'est située donc le 26 octobre 1977, paraît l'annonce de la création de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard, 6 au 3 rue du Claude Brousson, un pasteur protestant bien sûr à Nîmes, autrement dit dans les locaux du consistoire de l'église réformée de Nîmes, qui est aujourd'hui la maison du protestantisme, à deux pas de la maison carrée de Carré-d'Art, pour ceux qui connaissent Nîmes, et je pense que vous le connaissez tous. Les statuts de cette société, qui est une société savante, spécifient, comme ça vient d'être dit par Franck Bellois, qu'elle est une section de la Société de l'histoire du protestantisme français. La Société d'histoire du protestantisme français a été elle-même fondée au moment de ce qu'on appelle la période du réveil, en 1852, et elle a été reconnue d'utilité publique en 1870. Les buts de l'association qui est créée, la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard, se déclinent de la sorte. Je le cite, « Rechercher et recueillir à Nîmes et dans les limites du département du Gard, pour l'étudier et la faire connaître, l'histoire des églises protestantes, de leurs membres, leur vie, leurs souffrances, leur réussite ou leur notoriété, leurs travaux et leurs œuvres, des origines de la Réforme jusqu'à la période contemporaine. » Donc c'est un projet qui est quand même très vaste, c'est un projet de mémoire, recueillir une histoire, recueillir les témoignages sur cette histoire, vu sous tous les angles, pas simplement l'angle de, par exemple, et on pourrait, parce qu'on est dans le département du Gard, l'angle de la répression, puisque les protestants ont été particulièrement réprimés dans les Cévennes, mais vu de manière beaucoup plus globale les travaux et les jours des églises protestantes et des protestants eux-mêmes. Alors ça, ce sont les buts officiels, ce sont les statuts qui ont été déposés donc, et qui sont parus, qui ont été authentifiés le 26 octobre 1977 par le journal officiel de la République française. Sous quelle forme ça allait se manifester, parce que c'était ça l'objectif. Des publications, j'y reviendrai tout à l'heure, l'organisation de conférences, de colloques ou de tables rondes. Ce seraient donc les principaux moyens d'action de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Et au statut qui avait été adopté était joint une convention de coopération entre la Société de l'histoire du protestantisme français et sa filiale locale, la filiale locale à Nîmes, qui était signée par son premier président, le pasteur Roger Grossi, qui est toujours vivant, qui est notre président d'honneur, et qui a présidé pendant 27 ans, donc de 1977 à 2004, la Société d'histoire du protestantisme, avant de me passer le relais et le flambeau. Donc, voilà, si vous voulez, au niveau des faits, 1977, la création de la Société d'histoire du protestantisme, filiale, Denis Médugard, filiale de la Société d'histoire du protestantisme français, un travail d'histoire et de mémoire qui allait se manifester par des conférences, des publications, des colloques. Mais en réalité, on ne devrait pas parler d'une trentenaire, on devrait parler de quelque chose de plus ancien. En effet, la Société d'histoire du protestantisme français, ou Nîmois, a plus de 30 ans. Elle a en réalité une cinquantaine d'années, puisque tout a commencé dans les années 1950, toujours à ce qui est aujourd'hui la maison du protestantisme, ça s'appelait à l'époque la maison presbytérale, et c'était une petite équipe composée non pas de pasteurs, mais de laïcs, protestants, un professeur agrégé de philosophie, Jean Giblin, spécialiste de Kant et de Hegel, c'est même un des meilleurs traducteurs de la phénoménologie de l'esprit, l'ouvrage majeur de Hegel en France, et un instituteur qui s'appelait Louis Lacroix. Dès février 1954, ils organisent deux premières conférences sur l'histoire du protestantisme à la maison donc presbytérale, qui était le siège du consistoire de l'Église réformée à Nîmes. Ça va durer quelques années, et quelques années plus tard, en 1960, au milieu des années 1960, ces deux pasteurs de Nîmes qui prennent le relais, et ces deux pasteurs de Nîmes sont le pasteur Raoul Lhermé et le pasteur Paul Brunel. Dans la mémoire du protestantisme nîmois et gardois, le pasteur Raoul Lhermé et le pasteur Paul Brunel sont deux pasteurs, l'un étant plus jeune, Raoul Lhermé, que Paul Brunel. Paul Brunel a été beaucoup lié à l'existence de l'Église réformée de Nîmes sous l'occupation, où il a joué un rôle assez notoire aux côtés du pasteur Marc Bugner, qui s'était retiré, vous le savez sans doute, à Nîmes, puisqu'il y est resté pendant plusieurs années, de 1940 à 1942, 1943, et Paul Brunel était à ses côtés. Le pasteur Lhermé et le pasteur Brunel sont tous les deux membres de l'Académie de Nîmes, et ils sont vraiment passionnés d'histoire locale, d'histoire départementale. Ils écrivent, ils publient, ils animent des conférences et travaillent ainsi à sensibiliser l'opinion nîmoise, les protestants nîmois, mais bien au-delà, sur la richesse patrimoniale de la ville de Nîmes et du département du Gard en ce qui concerne l'histoire protestante. Et le pasteur Lhermé publiera dans ces années-là un livre que nous avons réédité pour le 30e anniversaire de notre société en 2007, qui s'appelle Nîmes cité protestante, qui est une histoire des éléments du protestantisme, des éléments fondateurs du protestantisme dans la métropole nîmoise. Mais Raoul Lhermé ne se limitera pas à ça. Il publiera également toute une série d'éléments, toute une série de travaux, de recherches, de conférences sur le département du Gard et son attachement, les liens entre le département du Gard et le protestantisme. Ils sont aidés dans ce travail par un professeur d'histoire médiévale à l'université Paul-Valéry de Montpellier, on l'appelle à l'époque la faculté de lettres de Montpellier, c'est le professeur André Dupont que j'ai connu puisqu'il a été mon professeur d'histoire à Paul-Valéry, enfin à ce qui allait s'appeler l'université Paul-Valéry de Montpellier. Ça veut dire qu'il y a, au départ, il y a une cinquantaine d'années, avant qu'on fonde officiellement en 1977 la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard, tout un terreau intellectuel qui mêle des pasteurs, des laïcs, et des universitaires pour travailler sur l'histoire du protestantisme, considérant effectivement que le département du Gard est un département privilégié de ce point de vue, puisqu'il a une histoire, un ancrage de l'histoire du protestantisme qui est assez considérable. On aura éventuellement l'occasion d'y revenir. Le pasteur Lhermé dont j'ai parlé sera donc, si vous voulez, sans que la société soit officiellement créée, le premier président de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Il meurt malheureusement de manière très prématurée dans les années 70, et c'est le pasteur Roger Grossi, qui est son collègue au Temple de l'Oratoire de Nîmes, qui va poursuivre l'œuvre engagée. Voilà donc, on a parlé de 1977, maintenant on a parlé plutôt, on est un peu remonté en arrière, dans les années 50. Il y a donc un gros travail qui a été fait depuis un demi-siècle pour essayer de faire connaître et partager une histoire qui est à la fois tragique, tumultueuse et profondément identitaire de notre département du Gard et du Midi méditerranéen. Et tellement identitaire que sous le mandat de mon prédécesseur, le pasteur Grossi, entre 1977 et 2004, il y a une remarquable continuité de recherche sur les grands moments du protestantisme non seulement dans ce département, mais dans le Midi méditerranéen. En témoigne un certain nombre de colloques tenus à l'occasion, à l'initiative de la Société d'histoire du protestantisme. Premier colloque en 1985, la révocation de l'édit de Nantes dans les Cévennes et le Bas-Languedoc. En 1987, les Rabaud, c'est-à-dire toute la famille du pasteur Rabaud, Paul Rabaud d'abord, puis son fils Rabaud Saint-Étienne, qui sera le premier président de l'Assemblée nationale sous la Révolution française, son frère Rabaud Pommier, puis Rabaud Dupuis, enfin ses frères, puisqu'ils étaient trois frères, qui ont joué un rôle, et ce colloque s'appelle les Rabauds du désert à la Révolution. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs la filiation qui peut exister entre les persécutions des protestants par la monarchie, par Louis XIV, en particulier dans les Cévennes, et le fait que les protestants ont été les acteurs principaux, en tout cas au niveau national et au niveau local bien sûr aussi, des premières journées révolutionnaires. En 1993, la Société d'histoire du protestantisme s'attarde sur la personnalité de Charles Gide. Charles Gide est un économiste, c'est l'oncle d'André Gide. On connaît beaucoup plus André Gide aujourd'hui que Charles Gide. À l'époque, c'était l'inverse. On ne connaissait pas beaucoup dans les années 30. On connaissait moins André Gide, il avait moins de célébrité qu'il en a eu à la fin de sa vie. Et on connaissait davantage Charles Gide, qui était un économiste né à Uzès, qui était le frère donc du père d'André Gide, le frère de Paul Gide. Charles Gide est un économiste et le fondateur de ce qu'on a appelé l'école de Nîmes de l'économie sociale. Si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui banalement le tiers secteur, le secteur coopératif, l'économie coopérative. Charles Gide est un très grand économiste, un très grand spécialiste d'économie politique, et le lien qu'il a eu avec le département du Gard, et notamment l'USAGE, font que on a organisé un colloque autour de sa personnalité, d'autant plus qu'il avait été à l'initiative d'une école d'économie sociale qui, dans l'histoire des écoles économiques, s'appelle l'école de Nîmes de l'économie sociale. Donc ça, en 1993. En 1998, la Société d'histoire du protestantisme s'attarde sur l'Académie protestante de Nîmes au XVIe et au XVIIe siècle et le Collège royal. Pour ceux qui connaissent Nîmes, il y a le cloître, ce qu'on appelle le cloître des Jésuites, qui est dans la Grande Rue. Le cloître des Jésuites a été le siège de la première académie protestante, puisqu'il y a eu toute une série d'académies protestantes provinciales au XVIe et au XVIIe siècle. Ça a été une des académies intellectuelles les plus fortes que l'on ait relevées dans ces époques-là. Dans cette époque-là, il y avait l'Académie de Saumur, il y a eu l'Académie protestante de Nîmes, et donc il y a eu un colloque. Tous ces colloques, d'ailleurs, sont disponibles, et éventuellement, on pourra vous les en faire passer quelques exemplaires si ça intéresse. Alors, il y en a qui datent effectivement d'un certain nombre d'années, mais on en a encore quelques exemplaires possibles. Et donc, en 1998, la Société d'histoire du protestantisme s'attarde donc sur les origines protestantes intellectuelles à Nîmes au XVIe et au XVIIe siècle. Et puis, lorsque je prends la direction de la Société d'histoire du protestantisme, nous sommes en 2004, et pour poursuivre dans cette recherche de l'histoire du protestantisme dans ce département et dans cette région, j'ai proposé au bureau et au conseil d'administration de notre société que nous célébrions, nous préparions la célébration du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, 1905, et nous avons donc tenu un colloque à Nîmes, dont voici les actes, 1905-2005, un siècle pour vivre ensemble, la loi de séparation de l'Église et de l'État à 100 ans. Et nous avons eu effectivement, alors l'idée, ça n'a pas été de le faire tout seul, la Société d'histoire du protestantisme l'a organisé avec les catholiques, le service Incroyance et foi de l'Église catholique à Nîmes, la Ligue des droits de l'homme, le cercle Condorcet, le cercle Adolphe Isaac Crémieux, qui est un cercle de culture juive, et les rencontres interreligieuses pluralistes. C'est-à-dire que nous l'avons organisé à 5 ou 6 sociétés savantes ou associations, et nous avons essayé d'avoir les historiens correspondant à cette recherche, les personnalités correspondant à cette recherche. Je vous en cite quelques-unes que nous avions. Le professeur Raymond Huard, qui a parlé de la spécificité gardoise de la séparation de l'Église et de l'État. Le professeur Jacqueline Lalouette, qui est un des meilleurs spécialistes nationaux de la séparation des Églises et de l'État, et en particulier de l'anticléricalisme. Le professeur René Raymond de l'Académie française, c'était un de ses derniers déplacements, puisqu'il est mort quelques mois après, sur les catholiques et la séparation, plus Jean-Paul Willem, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Jean Bobéro, Catherine Trottmann, l'ancienne maire de Strasbourg, députée européenne, etc., etc. Donc nous avons effectivement organisé un colloque supplémentaire et nous envisageons, je vous livre ce qui est pour l'instant notre travail, nous envisageons pour la fin 2010 et très certainement le début 2011 d'organiser un colloque de la même ampleur sur le thème littérature et protestantisme, puisqu'il nous semble qu'il y a effectivement une dimension protestante assez marquée, et pas simplement sévenole, mais nationale, au protestantisme, et même européenne d'ailleurs, puisque un des écrivains que nous avions commencé à contacter, mais qui vient malheureusement de disparaître, c'est le grand auteur suisse Jacques Chessé, qui vient de disparaître d'une crise cardiaque il y a quelques jours, et nous avions essayé de le contacter pour avoir sa participation à ce colloque. Malheureusement, il nous a quittés. Voilà donc ce que nous avons organisé au niveau de ces colloques depuis une vingtaine d'années, mais en fait, nous organisons surtout 9 à 10 conférences par an. Et nous publions chaque année, là j'ai la totalité des actes des relevé de conférences, nous publions l'intégralité des conférences qui sont données dans le cadre de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Donc depuis 2004, nous publions l'ensemble des actes des conférences de l'année précédente. Nous venons de publier ceux de 2008. Alors, quels sont les thèmes que nous abordons? Ce sont des thèmes extrêmement divers, parce que à partir des statuts, c'est-à-dire rechercher l'histoire du protestantisme, et notamment dans le département du Gard et dans le Midi méditerranéen, nous avons décidé quand même d'ouvrir un peu, de ne pas être simplement ne pas faire simplement un travail de mémoire, mais essayer d'ouvrir un peu plus sur la réalité contemporaine. Donc, à la fois des conférences historiques, mais des conférences aussi sur des sujets de société. Je vous prends un exemple. L'année prochaine, en 2010, on vient de l'arrêter il y a quelques jours, nous avons l'intention, en septembre, de faire une conférence sur le thème « Dieu est-il vert ?» avec la participation de Frédéric Baudin, qui est un des spécialistes de relations entre l'écologie et le protestantisme. C'est-à-dire que nous traitons à la fois des sujets historiques, mais nous pouvons aussi les traiter des sujets de société. Je vais, par exemple, vous donner le programme de l'année 2008. Le programme de l'année 2008, donc, qui a été reproduit dans le dernier bulletin que nous avons publié. Voilà ce que nous avons traité comme sujet. Au mois de janvier, nous avons demandé au pasteur Gounel, qui est un théologien et un philosophe, de traiter le thème « Protestantisme et modernité ». Au mois de février, une universitaire spécialiste de l'Académie protestante de Saumur est venue nous parler des deux animateurs, des deux fondateurs du couple en particulier, qui a initié cette Académie protestante de Saumur, qui s'appelle Philippe de Mornay et Charlotte Arbalest, un couple moderne. C'est effectivement, d'ailleurs, nous avons découvert à cette occasion qu'il y avait une modernité des couples au XVIe siècle qui s'est perdue par la suite et qui est toujours une conquête sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'était fort intéressant. Le professeur Olivier Facio de l'Université de Genève est venu au mois de mars 2008 pour nous présenter le Musée international de la Réforme à Genève sous le titre « Comprendre la Réforme ». Puis, au mois d'avril, et là on fait retour sur l'histoire locale, un professeur d'histoire et géographie protestant de Nîmes nous a parlé du diaconat de Nîmes, c'est-à-dire des œuvres charitables, des œuvres de solidarité, plus exactement, de l'Église réformée de Nîmes, le diaconat de Nîmes hier et aujourd'hui. Puis nous avons passé la frontière des Alpes avec un pasteur qui vit dans le département, qui vit à Clarensa, qui s'appelle pasteur Boulet, sur quelque chose qui est un sujet assez étonnant, puisque en principe ce pays-là est plutôt catholique. C'est une conférence sur le protestantisme italien. Et effectivement, sur une des figures du protestantisme italien. Nous avons reçu au mois de septembre le professeur Arnaud Bobéro, qui est le fils de Jean, sur 100 ans de scoutisme, puisque l'année précédente, en 2007, Arnaud Bobéro avait prononcé une allocution dans la chaire des pasteurs du désert au moment de l'Assemblée du désert, et ça avait intéressé plusieurs de nos amis qui avaient dit « mais on pourrait le faire dans le cours de l'année ». Puis nous avons traité en octobre les années nîmoises du pasteur Bugner, qui a été, vous le savez, le président national de l'Église réformée dans cette période extrêmement difficile qui a été la période de la guerre et de l'occupation, et bien au-delà d'ailleurs, le pasteur Bugner, donc, qui s'était retiré à Nîmes puisque le siège national de l'Église réformée était venu à Nîmes après l'occupation par les nazis et la division de la France en zones libres et en zones occupées. Et puis nous avons traité en novembre et en décembre 2008 la question des réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes, le destin des Huguenots français en Allemagne, qu'est-ce qu'ils étaient devenus, et puis également le rôle particulier qu'a pu jouer la principauté d'Orange, Orange dans le Vaucluse, qui était donc un État indépendant, enfin une principauté indépendante, et qui a joué un rôle, effectivement, pour le refuge au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Vous voyez donc que ça, c'était en 2008. Nous sommes en cours, pour l'instant, en 2009. Je peux vous citer quelques autres exemples. Là aussi, sur l'histoire locale, par exemple, nous nous sommes attachés au mois de janvier 2009 à l'Institut pour sources et muets de Saint-Hippolyte-du-Fort, le centre de rééducation de Louis de la Parole, le CROP, que vous connaissez sans doute, son directeur, et Jean-Marie Jacot, et un historien qui s'appelle Roland Castanet, sont venus nous parler à la fois de cette histoire Donc les protestants qui ont joué un rôle pour la rééducation, Louis, la parole d'enfants handicapés, et en même temps ce que c'était devenu aujourd'hui. Et puis nous avons traité également, ça concerne le département du Gard, vous voyez, c'est une figure du protestantisme et de la littérature qui est la Baumelle, Valrogue, originaire de la Baumelle, la Baumelle qui est originaire de Valrogue, etc. Et puis toute une série d'autres conférences, mais je ne vais pas vous en donner le détail. Simplement, qu'est-ce que nous allons faire en 2010? Eh bien, au-delà de la préparation de ce colloque sur littérature et protestantisme, nous avons arrêté déjà, je peux vous en donner la primeur. En janvier 2010, nous recevons le pasteur Gabel. Le pasteur Gabel est un pasteur qui s'est retiré au Vigan après avoir fait une carrière en Afrique, en Europe, etc. et qui a cette particularité d'avoir été l'aumônier de la prison de Spandau en Allemagne, la prison de Spandau qui a abrité toute une série de prisonniers dignitaires nazis, mais notamment Rudolf Hess, qui, vous le savez, a été un des premiers compagnons d'Hitler, et puis avait, en 1941, décidé d'abandonner le nazisme et s'était enfui en Angleterre, donc qui a été fait prisonnier, qui a été condamné par le tribunal de Nuremberg à la prison à vie et qui est mort à la prison de Spandau. Et le pasteur Gabel a eu l'occasion de le rencontrer, et on parle dans ses mémoires qui l'amène d'Afrique du Sud jusqu'en Afrique noire, et donc jusqu'à Spandau, etc. Donc nous recevons le pasteur Gabel en janvier 2010. En février 2010, nous aurons un universitaire qui viendra nous parler des rapports des protestants à l'espace et au temps. Puis en mars, nous traiterons de personnages espagnols qui s'appellent les frères Valdés. L'un est réformateur, l'un est protestant, et l'autre est inquisiteur. Dans la même famille, il y a plusieurs demeures, dit l'Évangile, dans la maison du Père. Là, en l'espèce, c'était le cas. Et puis, nous recevrons également le professeur Arlette Joanna, qui est professeur émérite à l'Université Paul-Valéry, et qui a republié l'an dernier une somme véritable sur la Saint-Barthélemy sous le titre Les mystères d'un crime d'État, la Saint-Barthélemy, donc du 24 août 1572, le massacre des protestants. Et puis nous traiterons également le personnage de Guillaume de Félice, qui est un des premiers abolitionnistes de l'esclavage des Noirs. Et c'est un pasteur évangélique de Menton, qui est noir lui-même, qui s'appelle le pasteur Nisus, qui viendra nous traiter de ça. Et puis, beaucoup d'autres sujets encore, puisque là, ça n'en fait que 4 ou 5, notamment un dont je parlais tout à l'heure, sur le centenaire du Musée du Désert, puisque le Musée du Désert a été fondé en 2010 et inauguré en 2011, et si c'est possible, nous avons l'intention de faire déjà une conférence sur le centenaire du Musée du Désert en 2010. Il est né en 1910, pardon, et a été inauguré en 1911. Il a été fondé en 1910 par Franck Puot et Émile Hugues et inauguré officiellement en 1911, donc ça fera 100 ans en 2010 et 2011. Voilà donc un peu aussi brièvement que possible, ça fait 30 minutes à peu près que je parle, voilà un peu l'histoire, voilà l'activité de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Nous sommes une douzaine de personnes à la faire fonctionner entre le conseil d'administration et le bureau. C'est un travail extrêmement intéressant qui m'a d'autant plus intéressé que je suis historien de formation. Et que, bon, quand on m'a sollicité pour cela, ce n'était pas ma préoccupation principale, mais que j'ai trouvé, même si je suis protestant d'origine, bien que n'étant pas pratiquant, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement à valoriser un patrimoine et une culture. Donc, qu'on soit croyant ou pratiquant ou pas, je crois que ça marque très profondément l'éducation que l'on a reçues et les valeurs que l'on pratique dans la vie sociale, dans la vie civique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et je suis prêt à vous répondre naturellement à vos interrogations.
C'est à vous la parole. Donc, si vous avez des remarques, compléments sur certaines choses qui ont été abordées, notamment les sujets des conférences ou des colloques, ou encore, évidemment, si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Voilà, je vous laisse la parole.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les activités de la Société nationale associée à l'histoire du protestantisme français ?
Alors, la Société nationale de l'histoire du protestantisme français publie un bulletin mensuel dans lequel on trouve toute une série de communications, d'études historiques ou théologiques. Mais c'est très variable. Il y a un numéro spécial qui vient de paraître sur Calvin, évidemment, à l'occasion du 500e. Je n'en ai pas apporté d'ailleurs parce que j'étais déjà pas mal chargé. Du 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Et par exemple, il y a eu un dossier extrêmement intéressant que je vous conseille, si vous avez l'occasion, de vous procurer ce bulletin de la Société d'histoire du protestantisme, de l'histoire du protestantisme français, sur le protestantisme et le cinéma. Il y a eu un dossier, c'était au mois d'avril, je crois que c'est avril-mai, c'est sur 2 mois, je crois, avril, mai, juin, ou 3 mois, 2009, il y a donc une étude extrêmement intéressante sur le protestantisme et le cinéma. Et ça a des racines gardoises, si vous voulez, j'en profite pour le signaler à ceux qui ne le sauraient pas et le confirmer à ceux qui le savent déjà. L'un des cinéastes les plus importants du phénomène protestant dans l'écriture cinématographique s'appelle Roger Lénart. Roger Lénart est originaire de la famille Lénart de Montpellier, bien sûr. Mais Roger Lénart a longtemps vécu, il a vécu les 15 ou les 20 dernières, plus exactement les 20 dernières années de sa vie à Calvisson. Et il a notamment réalisé un film, un seul long métrage, mais un long métrage assez remarquable, qui s'appelle Les Dernières Vacances, qui est un film qui doit dater de 1945, si je ne m'abuse, qui a été tourné en partie. C'est l'histoire donc de jeunes gens qui s'éveillent à la fois à l'amour et en même temps à la rupture avec leur milieu familial et social dans une famille de la grande bourgeoisie protestante. Le domaine dans lequel ça se passe, le domaine fictif dans lequel ça se passe, s'appelle Thorigne. Et en fait, ça a été tourné à Bellegarde, dans le Gard, au domaine des sources. Le domaine des sources étant la propriété familiale de la famille de Charles Gide, dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez l'occasion, soit en DVD, parce que je crois que c'est en DVD, soit parfois sur des chaînes cinéma du satellite, de voir ce film de Roger Lénart qui s'appelle Les Dernières Vacances, c'est un film assez remarquable. Il y a une très grande sensibilité pour retraduire cette austérité, cette pudeur, cette culture aussi du protestantisme. À travers ce film. Mais je me suis un peu éloigné donc de la question que vous me posiez, c'est-à-dire la Société de l'histoire du protestantisme français donc publie un bulletin régulièrement, organise des colloques, a une bibliothèque, dispose d'archives et on peut à la rue des Saints-Pères à Paris s'y rendre, etc. Il y a même un site internet, vous pouvez consulter Société de l'histoire, de l'histoire du protestantisme français, et vous avez la totalité des activités. Il y a des colloques assez nombreux, donc il y a ce numéro sur Calvin, mais je me souviens, et on doit pouvoir encore le récupérer au musée, à la bibliothèque du musée du désert, enfin, puisqu'il y a un certain nombre de voix, il y a un ouvrage sur un colloque très, très ancien, relativement ancien, sur Coligny, l'amiral de Coligny, donc, qui est un des chefs du parti protestant au XVIe siècle. Et puis il y a le fameux colloque Guizot, effectivement, qui a été organisé. Donc Laurent Theiss, l'ancien le past président, comme on dit, de la Société de l'histoire du protestantisme français, avait été une des chevilles ouvrières avant que d'être l'auteur d'une remarquable biographie de Guizot. Voilà ce que, brièvement dit, ce qu'est la Société de l'histoire du protestantisme français, c'est-à-dire une société savante, reconnue nationalement, et qui a joué un rôle, d'ailleurs, qui a tenu un rôle important dans la commémoration des événements nationaux, par exemple en 1998 pour la célébration du 400e anniversaire de l'édit de Nantes, donc toute une série de manifestations nationales. C'est l'interlocuteur du gouvernement ou du ministère de la Culture lorsqu'il y a un certain nombre de manifestations. Donc c'est autorisé, si vous voulez, c'est disons, la parole vraie ou la parole authentique de l'histoire du protestantisme français. Voilà.
Pourquoi en 1852 la Société d'histoire a-t-elle été créée? Y a-t-il un rapport? On est en pleine période de réveil. Hein,
c'est
l'église,
ça.
Oui. L'Église libre vient de se créer. Donc, est-ce qu'il y a un lien, au fond, entre cette recherche, cette redécouverte de la mémoire protestante, cette volonté de conserver cette mémoire, et, au fond, en même temps, cette redécouverte d'une foi plus, comme diraient les revivalistes, plus vivante, hein ? Est-ce qu'il y a là un lien, un parallèle à établir entre les deux, ou est-ce que c'est complètement, vous l'avez mentionné, hein, au tout début, vous avez précisé que c'était au moment du réveil, ou est-ce qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les deux, que ce sont deux choses complètement distinctes? Mais alors pourquoi cette création en 1852? Qu'est-ce qui fait que dans le contexte, on a voulu créer une société d'histoire du protestantisme?
Non, je crois que vous donnez le... Je crois que le parallèle est à faire. Je crois qu'il y a quand même deux dimensions qui sont complémentaires. Le phénomène du réveil ou du revivalisme, comme l'on voudra, montre une Église qui est décidée à sortir de la période antérieure, c'est-à-dire de cette période qui a été après, qui s'est terminée au moment de la Révolution française. Il n'y a eu plus que la période quand même donc de l'écrasement entre 1685 et 1789, c'est-à-dire pendant un siècle, 1787, l'édit de tolérance, pendant un siècle, le protestantisme français est quand même écrasé. Puis, il y a la période de la Révolution, et la période de la Révolution, c'est une période où, effectivement, le protestantisme est soutien de la Révolution. On pourrait même dire que c'est un des groupes qui a joué un rôle, et en particulier dans le Gard, on pourra éventuellement y revenir, en particulier à Nîmes. Ça a été noté par l'historien de la Révolution française qui s'appelle Michel Vauvel, qui note effectivement l'influence particulière du protestantisme dans le mouvement révolutionnaire en 1789 jusqu'en 1793, avec la personnalité emblématique de Rabault-Saint-Étienne. Et puis, il y a une période après où le protestantisme va être quand même mis... Alors, même s'il approuve le concordat et les articles organiques, il va être quand même mis au pas par le bonapartisme, par l'Empire. Puis, il y aura une période difficile qui est la période de la Restauration. Et disons que c'est à partir des années 1848, à partir de Louis-Philippe, donc 1852, que, coïncidant avec le mouvement du réveil, il y a une nouvelle manière d'envisager le protestantisme dans la société. C'est plus simplement la mémoire de ce que nous avons été, la mémoire des persécutions que nous avons subies, c'est une foi qui est vivante au contact de la réalité d'un peuple qui est vivant. Ça, c'est une des premières données. Et en même temps, je crois qu'il y a la volonté de rappeler ce qu'a été le protestantisme. Parce que c'est une histoire. Je crois que le protestantisme est une religion qui est à la fois cotée au livre, c'est une religion du livre, c'est pas la seule, mais c'est une religion de l'écriture, de la parole écrite. Donc je crois que ça c'est extrêmement important de ce point de vue, et c'est aussi une religion qui est très frottée à l'histoire, puisque des guerres de religion jusqu'à la révocation de Lénine, en fait, toute cette période, ça fait quand même pratiquement deux, entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle où intervient la Révolution, c'est une période quand même de bruit, de fureur pour le protestantisme et d'épreuve. Et on a besoin de rappeler cette histoire tout en essayant de se tourner vers l'avenir. Et je crois que le symbole, c'est quand même le musée du désert. Le musée du désert, c'est la mémoire de ce qu'ont été les protestants, de leur histoire, c'est l'histoire des épreuves, du bruit et de la fureur, de ces deux siècles de bruit et de fureur. Et en même temps, l'assemblée du désert, c'est une manière de manifester. L'assemblée du désert, vous le savez, elle est partagée en deux. Le matin, c'est le culte, auquel participent des protestants, mais peuvent participer des gens qui ne sont pas protestants, mais qui est tourné davantage vers la société du temps, vers l'avenir. L'après-midi, c'est quand même les allocutions historiques. Donc c'est bien, il y a bien quand même une symbiose ou une articulation entre cette histoire qui n'en finit pas de passer, ce passé qui n'en finit pas de passer, mais qui est en même temps, je crois, riche d'enseignements pour l'avenir. Et je crois que ça a été assez significatif. On a eu de 2002 à 2004, on a eu plusieurs... ça a été le tricentenaire donc de la guerre des Cévennes, puisque c'est 1702-1704. Il y a toute une série, effectivement, de commémorations qui ont été faites au musée du désert, à l'Assemblée du désert, et dont le bulletin de la Société d'histoire du protestantisme a publié les discours qui ont été prononcés à cette occasion. Mais en même temps, il y a eu des prédications le matin, qui étaient des prédications réellement tournées vers le protestantisme dans la société de notre temps. Et je crois qu'effectivement, il y a une articulation entre l'histoire et l'avenir. Au fond, l'histoire des protestants, elle est branchée sur l'avenir. Où l'avenir des protestants est branché sur leur histoire. Je crois qu'il y a une assimilation. Donc ce n'est pas particulièrement étonnant que ce soit né pendant la période du réveil. Je crois qu'on peut l'expliquer ainsi.
S'il y a d'autres questions, des remarques. Oui.
Oui, oui.
Le plus dans les vallées cévenoles, dans la vallée Borne.
Eh oui.
Et qui est peut-être des derniers îlots de résistance active dans la guerre des Camisards.
Oui.
Cette imprégnation si forte qui a permis cet îlot de résistance, particulièrement original, est-ce qu'on peut dire qu'il est dû. Alors, comme le dit Laurent Ladurie, le fait que le protestantisme était devenu, avait remplacé, balayé tout le folklore, les chants, les psaumes, et cet ancrage donc par la conversion massive des populations, et aussi est-ce que l'influence de Rouen, c'est presque un état dans l'état peut-être. Par justement des protestants qui étaient favorisés à partir du moment des conversions par rapport à l'Église catholique. Alors est-ce que là, sur ce sujet, il y a eu ces relations, des études, disons, sociologiques, en quelque sorte, de l'évolution?
Oui, enfin, je pense que vous avez, c'est moins une question qu'une remarque, qu'une appréciation que je partage. Tout à l'heure, avec Franck Belloir, je citais le nom d'André Siegfried. André Siegfried, qui est un des fondateurs, c'est le fondateur de l'école des sciences politiques, c'est un académicien, il est français, qui est mort il y a assez longtemps, mais qui a publié une étude fondatrice qui s'appelle « Le groupe protestant Cévenol » dans un ouvrage qui est paru à la Libération sous la responsabilité du pasteur Bugner et qui montre effectivement les racines de l'imprégnation protestante dans les Cévennes. Alors, je crois qu'il y a d'abord, effectivement, une sorte d'imprégnation par le livre, par le colportage. Les Cévennes protestantes, pourquoi les Cévennes sont-elles plus protestantes que catholiques? Encore qu'il y a des Cévennes catholiques. Encore qu'il y a des Cévennes catholiques, le professeur Robert Sauzet, doyen le président du Centre de la Renaissance à Tours, et qui a été le doyen de l'Université de Tours, a montré qu'il y avait des Cévennes catholiques. Mais ce sont des Cévennes minoritaires. Pourquoi? Parce que je crois qu'effectivement, il y a eu une littérature de colportage qui a fait que la Bible, les ouvrages d'exégèse de la Bible ont pénétré très tôt dans les Cévennes par les voies de Crète, etc., avec les colporteurs qui apportaient beaucoup d'autres choses d'ailleurs que des livres, qui apportaient des vêtements, etc., etc. Donc il y a déjà cette imprégnation. Ce n'est pas une imprégnation, à mon avis, de caractère folklorique, c'est une imprégnation qui est d'abord par le livre et par la culture. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que je crois que ça correspond aussi sociologiquement à ce que sont les Cévennes au XVIe siècle. C'est une Cévennes, la Cévennes, c'est une Cévennes de quart d'heure, d'éleveurs, enfin de bergers, tout ce qui est lié au travail de la laine, au travail de la paysanne, c'est les petits fermiers, etc., etc. Et il y a chez eux, ça, dans l'histoire des paysans du Languedoc, le roi, la durée, le monde, il y a chez eux quand même quelque chose qui est fondamental ou fondateur, c'est cet esprit d'indépendance. Or, effectivement, par la règle du sacerdoce universel, le protestantisme libère, finalement, il n'y a pas, comme dans la religion catholique, une inégalité entre le berger et les brebis. Nous sommes tous des bergers. Nous sommes tous des bergers parce que nous pouvons tous, effectivement, prendre la parole de Dieu et la retransmettre, la communiquer. Et je crois que ça correspond à cet esprit d'indépendance sociologique qui est lié à la sociologie de la population cévenole. Donc, culture, esprit d'indépendance. Et puis, il y a le troisième élément, on est aussi dans le midi de la France. Et dans le midi de la France quand même, et ça se verra au moment de la Révolution française, je vais ainsi revenir sur un épisode quand même qui est assez intéressant, c'est que dans le midi de la France, il y a quand même cette idée de la... Et ça se verra au moment de la guerre des Cévennes, avec ce qu'on a appelé l'épisode de la Bourlie, il y a eu cette tendance à vouloir créer une sorte d'État indépendant protestant, une sorte de république protestante, avec l'aide de l'Angleterre, etc. Alors après ça, on rentre dans la géopolitique, les rapports, etc. Mais il y a effectivement cette idée de l'indépendance du Midi. Et je dis que ça se retrouve au moment de la Révolution française. L'historien Michel Vauvel, qui est un des meilleurs spécialistes de la Révolution française, dit il y a à Nîmes en particulier, et dans le Gard, mais à Nîmes en particulier, une superposition au moment de la Révolution française, une superposition des clivages politiques et religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il dit, voilà, prenez les filatures, les filatures de drap, de tissu, vous savez que le tissu, le jean, ça a été fabriqué à Nîmes, etc. Bon, enfin, il y a une légende de la réalité là-dessus. Les filateurs, au moment de la Révolution française, ce sont essentiellement les propriétaires de filatures, ce sont des protestants. Les bourgeois possesseurs de ces filatures, ce sont des protestants. Alors pas ceux qui sont partis au moment de la révocation des dîners, mais ceux qui sont restés et qui ont pu finalement trouver place au soleil. Et leurs ouvriers, ce sont essentiellement des ouvriers catholiques. On les appelle les CB, C-E-B-E-T-S, les mangeurs d'oignons, la sève. Et ces CB, ils travaillent, ils suent le burnou, si je puis dire, dans la filature, dans les filatures des protestants. Arrive la Révolution française. Les filateurs protestants défendent la Révolution française. Non seulement parce qu'elle les libère du point de vue spirituel, mais aussi parce que, avec la Révolution française, c'est la possibilité pour la bourgeoisie de se libérer des entraves de l'Ancien Régime et du système féodal. Par contre, les ouvriers catholiques, et en particulier à Nîmes, ils se disent, bon, on suit le burnous pour les filateurs protestants. Ils soutiennent la Révolution. Nous, quel est notre intérêt dans l'affaire? Aucun. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1790, au mois de juin 1790, les ouvriers catholiques, les CB, ils vont se révolter contre les filateurs protestants. Ils vont se dresser contre la Révolution française. Nîmes devient capitale de la contre-révolution en 1790. Et qui va sauver la Révolution à Nîmes? Les paysans des alentours de Nîmes qui vont effectivement venir au secours des filateurs, des bourgeois protestants pour juguler cette bagarre de Nîmes, cette insurrection des ouvriers. Vous voyez, superposition des clivages politiques, sociaux et religieux. Ceci, c'est en 1790. En 1793, on est à front renversé. Qu'est-ce qui se passe? En 1793, la Révolution, elle a commencé à évoluer, elle est même longue puisqu'elle dure depuis 4 ans. Et les bourgeois protestants, toujours les mêmes tous ces mêmes filateurs, ils trouvent qu'il serait bien maintenant d'arrêter la Révolution française. 1793, vous savez, c'est la dictature, ce qu'on appelle la dictature de salut public, le règne du comité de salut public, Danton, Robespierre, Hébert, etc., avec leurs luttes internes, etc. Et les protestants nîmois, ils se disent, bon, il faudrait peut-être arrêter la Révolution. Et va se dessiner une sorte de mouvement qu'on appelle le mouvement fédéraliste. Et les protestants vont mettre la main dans ce mouvement fédéraliste qui veut l'arrêt de la Révolution française. Parce qu'ils estiment que maintenant ça va trop loin. Par contre, leurs ouvriers catholiques, eux, ils disent « Mais non, il faut continuer la Révolution jusqu'à la réalisation de l'égalité sociale, celle que promet Robespierre. On est à front renversé. Et pour sauver la Révolution, on va faire une fois de plus... Alors là, on va faire une fois de plus appel aux protestants de la Vonage, de la Vistrinque, pour sauver le processus révolutionnaire, pour éviter effectivement qu'on arrête la Révolution. » Et vous voyez donc, chaque fois, ce qui est déterminant, c'est effectivement cette position d'indépendance par rapport au pouvoir. Mais en même temps, il y a ce lien entre la religion, la manière dont... La religion protestante, elle a finalement favorisé le développement de l'idéologie révolutionnaire en 1789, mais elle peut, en 1793, se tourner de l'autre côté aussi. On s'aperçoit donc qu'en particulier dans le Gard, c'est assez compliqué, les rapports entre politique et religion. Et j'en conclue ainsi. C'est ce qu'explique André Siegfried dans l'article que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le groupe protestant Sevenol. Il dit, en gros, les Cévennes sont des Cévennes donc de petits paysans, ou de paysans pauvres, qui ont été très tôt acculturés à la réforme, qui ont un très fort esprit d'indépendance, qui sont très attachés à la République. Eh bien, comme le dit le professeur Patrick Cabanel dans un de ses ouvrages, il dit « Dans les Cévennes, le rouge, c'est la couleur de la République. » Et effectivement, on arrive à cette sorte d'équation qui n'est pas toujours exacte, mais qui est quand même confirmée par des décennies de résultats électoraux, canton protestant, canton à gauche, cantons qui votent socialistes, communistes ou radicales. Ça dépend des périodes, etc. Il y a une sorte d'équation, de signe d'égalité. Alors, ça change. Mais ça change, ça peut évoluer. Mais c'est quand même quelque chose qui dure depuis très longtemps. Ça fait plusieurs décennies qu'on constate qu'effectivement, les cantons cévenols sont en général beaucoup plus à gauche que les cantons urbains de la plaine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre curiosité ou à vos questions, à votre question.
Merci. Oui, c'est 70%. La gauche s'est stabilisée, par exemple, dans les villages à Valpont, à 70%.
Et même avec un côté assez radical. Regardez ce qui vient de se passer à Anduze, par exemple. Traditionnellement, le conseiller général était socialiste. Et là, c'est quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle la gauche radicale, enfin, genre Front de Gauche, ou etc. Enfin, à mi-chemin des écolos, là, comme Bendit et quelques autres, etc. C'est étonnant. Anduze, vous savez que c'est le plus grand temple de France, etc. Et puis, il y a énormément de, j'allais pas dire de sectes, mais de groupes protestants ou de groupes réformés, en tout cas, dans cette localité. Et c'est assez remarquable, effectivement, il y a une imprégnation culturelle protestante qui est extrêmement forte en Anduze. Politiquement, c'est assez bizarre que ça se traduit là. Alors certes, il y a eu sans doute des explications sur le personnel politique socialiste qui ne devait pas correspondre à ce qu'on attendait, où il y a eu un certain nombre de problèmes, mais c'est un signe aussi, effectivement, de cette imprégnation, de cette force du protestantisme, de la gauche et du protestantisme dans ces cantons cévenols. Pour l'instant, ça bouge très lentement. Ça bouge très lentement. Alors, effectivement, on peut s'interroger. Longtemps, on a dit... Alès, c'était aussi une citadelle, c'est une citadelle du protestantisme, depuis 1577, je crois, quelque chose comme ça. Et ça a été très longtemps à gauche, ça ne l'est plus depuis un certain temps. Mais bon, alors il y a la règle, puis il y a l'exception aussi, éventuellement. Enfin, il ne faut pas l'expliquer mécaniquement, mais ça peut, c'est un des éléments d'explication.
Il y a aussi le fait que pendant longtemps, la droite est associée au catholicisme.
C'est ça.
Et qu'il était inconcevable, donc pour des protestants, d'adhérer à des partis de droite, parce qu'adhérer à des partis de droite, c'était adhérer, au fond, à la pensée, au parti catholique, ou le soutenir, et donc c'était soutenir celui qui nous avait persécutés. Et il y a eu une espèce d'interdit, volontaire ou non, qui, dans l'imaginaire protestant, qui a fait que pendant longtemps, au fond, même des partis protestants de droite, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ne pouvaient pas se développer. Il a fallu attendre, au fond, l'entre-deux-guerres, hein, pour voir, le parti extrémiste Sully, mais je pense aussi à Freddy Delorman, par exemple, hein, fondateur de la cause, qui était quand même plutôt un homme de droite, par réaction aussi, parce que à ce moment-là, se développe le communisme et que le communisme, finalement, devient aussi un danger. Et au fond, on ne peut plus faire bloc avec la gauche, parce que faire bloc avec la gauche, c'est aussi faire bloc avec le communisme. Donc, il y a aussi ce basculement d'un point de vue politique qui est possible dans l'entre-deux-guerres et qui n'était pas possible avant. Est-ce qu'il y a des remarques ou d'autres questions ? Alors, juste pour finir, par allonger très rapidement, mais est-ce que, avec tous ces travaux depuis les années 50 de la Société d'histoire du Gard, il ressort, alors c'est une question peut-être un peu piège, mais y a-t-il une spécificité ici du protestantisme nîmois, gardois, au regard de l'ensemble de l'histoire du protestantisme français ? Quelques traits, quelques personnalités comme ça qui émergent et qui sont vraiment des figures particulières, on pourrait presque dire extraites du contexte protestant dans lequel elles ont vécu et qui sont issues du terreau ici et qui ont été novatrices, des hommes comme Charles Gide.
Je crois que oui, il y a une spécificité. Je serais tenté de dire, enfin, bon, c'est une interprétation qui m'est propre. Hein, je pense que le protestantisme ici est un protestantisme de combat, parce qu'il est lié à une histoire qui a été effectivement une histoire d'épreuve, une histoire de lutte. Le protestantisme ne s'est pas, de manière générale, effectivement, en France, ça s'est pas passé de manière très simple. Mais ici, quand même, ça s'est passé dans le sang. Donc il y a effectivement, je crois, un protestantisme rebelle. Il y a peut-être ici, plus qu'ailleurs, il y a un esprit de rébellion. Je crois qu'il, je le citais dans je crois qu'il y a un texte. Je vais peut-être vous le retrouver. Écoutez, l'évêque de Nîmes, qui s'appelait Monseigneur Cohan, au XVIIe siècle, il écrivait au cardinal Mazarin, « Ces Nîmois sont des républicains. » C'est sous la monarchie. Sous la monarchie absolue. On ne peut pas Louis XIV, entre Louis XIII et Louis XIV. Donc, il y a cette idée, effectivement, que je crois que c'est un protestantisme de combat. Et il y a effectivement un spécialiste de l'histoire du protestantisme, qui s'appelle Herbert Lutti, qui dit, quand même, je vous cite cette phrase-là, ce qui fonde l'idéal protestant, en fait, le comportement protestant, c'est le libre examen, la raison critique, la souveraineté de la conscience individuelle, le mépris des rites et des superstitions, un esprit de rationalité senti comme une exigence morale. Mais je crois que ça correspond tout à fait, trait pour trait, au protestantisme nîmois, gardois, cévenol. Je crois qu'effectivement, il y a vous savez, on dit des nîmois sont les rébroussiers. En fait, rébroussier, ça veut dire rebelle, réfractaire, etc. Je crois qu'effectivement, dans le protestantisme gardois, dans le protestantisme français, le protestantisme gardois apporte cette idée du libre examen, mais poussé jusqu'aux plus ultimes conséquences, effectivement. Il me semble qu'il y a cette particularité du protestantisme gardois, du protestantisme nîmois ou gardois en général, c'est effectivement de pousser les valeurs du protestantisme jusqu'à leurs plus extrêmes conséquences. Je crois que c'est un protestantisme, c'est pas un protestantisme pour les tièdes. Je crois que c'est dans l'Évangile qu'on dit que Dieu vomit les tièdes. Eh bien, je crois qu'ils vomiraient pas les protestants gardois parce que ils se battent. Je crois qu'ils se battent. Ils l'ont montré d'ailleurs, plus généralement d'ailleurs. Aussi, ils l'ont montré dans la région, avec l'épisode du Chambon-sur-Lignon, les protestants qui sauvent les juifs pendant la guerre. Et je voyais, je ne sais pas où j'ai vu ça, on vient de célébrer encore, on vient de remettre la médaille des justes à deux habitants de La Salle, dans le Gard. Et je crois que dans cette localité de La Salle, qui est, c'est vraiment la localité protestante par excellence, hein, quand on voit les gens. Parfois on dit tiens, hein, il doit être protestant parce que je sais pas, il y a peut-être une manière physique, etc. Il y a 14 personnes, c'est un village d'un millier d'habitants, hein, il y a 14 personnes qui ont reçu dans les dernières années la médaille des justes pour avoir sauvé ou préservé les enfants juifs, etc. Je crois qu'il y a effectivement cet esprit de solidarité, de rébellion. J'ai remarqué tout à l'heure que vous aviez dans la librairie, pour ceux qui l'ont vu, ça leur dira quelque chose, ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille, le film de Jean-Louis Lorenzi, qui s'appelle « La colline aux mille enfants », qui est l'épisode donc, du Chambon-sur-Lignon. C'est pas si loin que ça, hein, le Chambon-sur-Lignon. Je crois qu'il y a, c'est les Cévennes quand même. De toute façon, je crois qu'il y a effectivement cette marque de rébellion contre toute injustice, cette idée de solidarité poussée jusqu'à son terme. Et puis en même temps, je crois qu'il y a effectivement des personnalités, comme vous l'avez cité, Charles Gide. Charles Gide, au fond, c'est, lorsqu'il développe cette idée de la coopération, c'est ni le capitalisme sauvage, ni le communisme stalinien. C'est une troisième voie. Alors c'est très difficile, hein, parce que dans cette période des années 30, c'est où on est d'un côté, où monte le fascisme, et de l'autre côté, bon, il y a l'Union soviétique avec le rôle qu'elle joue, il y a effectivement une difficulté chez Charles Gide à pouvoir développer cette troisième voie. Mais il y a effectivement ce travail chez les intellectuels protestants, et on veut essayer de le montrer à travers un certain nombre d'écrivains protestants aussi. Il y a cette idée, et en particulier dans le Gard, il y en a un certain nombre, cette idée du refus. Ah, il y a une formule, à mon avis, qui s'applique tout à fait aux protestants gardois, à tous les protestants de manière générale, mais plus encore aux protestants gardois, c'est la devise de Luther à la diète de Worms. Je ne puis autrement. Je crois que c'est ça la marque des protestants gardois, l'originalité. Je ne puis autrement. Je crois que c'était la devise, d'ailleurs, qu'avait retenue sa fille qui le raconte, André Champsaud, qui est un grand auteur protestant, mais même s'il n'était pas, même s'il était très agnostique.
Merci beaucoup, Monsieur Boissard. Et donc, c'est moi. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous le voulez, vous pouvez donc encore vous rafraîchir juste à côté, et encore quelques petits gâteaux aussi pour ceux qui le souhaitent.